Chapitre 5. Michel-Ange, délivre-toi de la matière. Diego était décidément un incorrigible imbécile. Incapable de canaliser ses questions, qui jaillissaient comme des diables d'une boîte et déclenchaient l'hilarité de la classe par leur incongruité. Cette fois, il avait très attentivement écouté l'institutrice, Madame Adji, qui le tançait parce qu'il ne s'était pas aligné dans le rang sous le préau à la sonnerie de 10h30. « Il fallait arrêter de jouer, Diego !» lui asséna-t-elle avec autorité. Et Diego, à ce reproche qui se voulait grave et circonstancié, répondit « Pas méchamment, certes, plutôt avec une curiosité sincère, mais d'une manière si malhabile que Madame Adji en perdit contenance. « Et vous » rétorqua-t-il. « Quand est-ce que vous vous êtes arrêté de jouer ?» Il fut expédié chez le directeur, en larmes, persuadé de ne pas mériter de punition. Lors de la grande pause de midi, Jade et Lily invitèrent Mona à jouer à ce qu'elles appelaient la Nouba, jeu qui consistait à se projeter dans ce qu'elle se figurait être l'univers de la musique. En général, une des filles endossait le rôle de productrice. Avec quelques accessoires de fortune, elle dotait une de ses deux camarades d'un apparat excentrique pour qu'elle se lance dans une performance effrénée de guitariste ou de chanteuse. La troisième mimait la spectatrice fanatique ou la critique cruelle. Mais cette fois, Mona demeura muette. Pas envie, pas la tête à cela. Quelque chose inhibait son enthousiasme habituel. Ce quelque chose, c'était le souvenir de la question de Diego, le matin même. Elle réalisait que son camarade ne l'avait pas du tout posé par impertinence. Diego s'était interrogé de la manière la plus sincère qui soit. Quand donc un individu s'arrête-t-il de jouer? À partir de quel seuil? À partir de quel âge ce goût pour les histoires que l'on s'invente et que l'on interprète avec une spontanéité insouciante cesse-t-il? À partir de quand cette aisance à entrer dans un autre monde, à métamorphoser tout autour de soi en château, en plaine du Far West, ou en vaisseau spatial, se grippe-t-elle? Diego et Mona, désormais, voyaient advenir cette curieuse perspective, comme s'ils pressentaient qu'un jour, très prochain peut-être, eux aussi, fatalement, abandonneraient les territoires fluides où jouer relève de la disposition naturelle plus que de la décision consciente. Mais quand? Quand précisément cette rupture se consomme-t-elle? Et tandis que ces pensées tourbillonnaient, le corps de Mona s'était figé au milieu de la cour où les enfants s'agitaient comme des atomes. Alors, un ballon en mousse épaisse, gorgé de l'eau crasseuse des flaques, gicla de nulle part et lui percuta violemment la tempe. Elle bascula sur le flanc et, terrassée, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle les réprima avec une volonté féroce, vexée de voir qu'un garçon, le fameux Guillaume, le beau redoublant qu'elle détestait, se précipitait sur le ballon et reprenait sa partie de foot avec une totale indifférence. Pas un mot, pas un geste, pas un regard. Heureusement, Lily et Jade s'élancèrent vers leur amie pour la relever et réitérèrent leur proposition. « Allez, on joue à la Nouba !» Mona acquiesça cette fois. Convoquant toute l'imagination dont elle était encore capable, elle se projeta en une vedette pop déchaînée, Jade en manager fou, Lily en une foule de 100 000 personnes. Un discret soleil dansait sur leur visage. Cette fois-ci, Henri conduisit Mona dans une salle qui frappait le regard par une sorte de froideur magistrale et n'avait pas la séduction immédiate de la peinture. Il y avait d'ailleurs peu de monde dans la galerie située dans l'aile de nom du Louvre et dont Henri avait toujours trouvé qu'elle souffrait de deux torts. Elle s'apparentait davantage à un passage, à un sas vers autre chose qu'elle-même, et elle était spectrale, presque mortifère. Mais ce ressenti était peut-être propre à son objet, la sculpture, et plus particulièrement la sculpture italienne de la Renaissance, avec son déploiement d'ombres noires, les bronzes, ou blanches, les marbres. Mona marchait sagement aux côtés d'Henri vers une œuvre en pierre, figurant une silhouette en pleine convulsion. Au fil de leur approche, l'espace résonnait très fort, et les oreilles de la petite fille sifflaient, torturées par les cris d'un enfant juché sur le dos d'un gros bonhomme, certainement son père, dégoulinant de transpiration. Mona songea alors qu'elle aussi, dans un passé pas si lointain, aimait escalader les épaules des adultes. Et elle demanda à son grand-père, immense et si vaillant encore, de la porter. L'exercice était périlleux, mais Henri s'exécuta, plia son corps osseux et hissa avec une prodigieuse force abdominale Mona vers le plafond, de sorte que la petite fille se retrouva à 2,50 m au-dessus du sol et qu'elle tomba presque en vis-à-vis avec un visage en marbre que les visiteurs ne voyaient, eux, qu'en contrebas. Ce visage avait les yeux fermés. La bouche, légèrement charnue, aussi. Une régularité de traits absolument parfaite, avec un nez fin et droit qui scindait en deux une tête surmontée d'une masse de cheveux bouclés. Elle était penchée contre l'épaule droite, sans la toucher toutefois. Et de cette épaule partait un bras souple et musclé, se rabattant vers l'intérieur au niveau du coude, aboutissant à une main massive, effleurant le torse, ou plus exactement, recouvrant de la paume l'emplacement du cœur, et cherchant du bout des doigts la médiane qui sépare le corps en deux hémisphères, c'est-à-dire le sternum. Un fin vêtement remontait au-dessus de la poitrine. Le garçon était par ailleurs intégralement nu, et l'on voyait clairement son pubis exempt de pilosité à l'encoignure des deux jambes, dont l'une, à gauche, reposait sur un amas de marbre plus volumineux et pliait en pivotant légèrement vers sa droite, ce qui créait un mouvement du bassin, un déhanché extrêmement limpide, infiniment doux. Pour appuyer cette impression, il y avait enfin le bras gauche, qui basculait en arrière et venait se perdre au niveau de la nuque. D'une manière générale, on eût dit quelque chose comme le délassement extatique d'un individu allongé, mais représenté à la verticale. Au pied du modèle demeurait un volume de pierre informe et remontant à la manière d'une sorte de vague jusqu'au revers des cuisses. Au sommet de cette matière très peu ouvragée, une mystérieuse tête de singe se profilait, à peine ébauchée. Ce ne fut pas Mona qui, la première, se fatigua d'examiner l'œuvre sans dire un mot, mais son grand-père, écrasé par le poids de sa petite fille assise sur ses épaules. Il la reposa au sol. Mona avait dès lors un point de vue beaucoup plus bas. Elle détourna les yeux du sexe de la statue, qui l'embarrassait tant elle le trouvait proéminent, et fixa le visage de marbre à la renverse. Elle eut soudain le sentiment qu'il était très loin, trônait très haut. « Est-ce qu'il est heureux ou triste, Dadé ? Qu'en dis-tu, toi ? Un peu des deux. Quand je le regardais de près sur tes épaules, j'aurais plutôt dit qu'il était heureux, mais là, je me dis qu'il ressent peut-être une espèce de douleur. En tout cas, moi, quand j'ai mal, je me tortille, un peu comme lui. Tu sais, on a fort peu de certitudes sur cette statue. Elle demeure pleine d'ambivalence. Ce qu'il y a de sûr, cependant, c'est d'abord son auteur, Michel-Ange Buonarroti, peut-être le plus grand artiste de tous les temps, un homme exceptionnel et étrange, auquel son talent et son tempérament ombrageux lui attirèrent immédiatement la jalousie de ses contemporains dès sa formation du côté de Florence. On raconte par exemple qu'un de ses condisciples, irrité par son mélange de virtuosité artistique et d'indélicatesse, lui expédia un violent coup de poing dans le nez. Et voilà Michel-Ange défiguré pour toute sa très longue vie. En plus d'être quelqu'un d'odieux, il s'avérait donc plutôt repoussant. Repoussant ? Mais toi aussi, tu as une grosse cicatrice. Et moi, je collerai un coup de poing au premier qui dirait que tu es repoussant, s'offusqua Mona, avant d'ajouter avec une ironie malicieuse, « T'es trop beau, Dadé. Tu as bon goût. » Le père de Michel-Ange estimait qu'il était déshonorant de devenir sculpteur, parce qu'à l'époque, c'était une profession considérée comme bassement manuelle, et on l'assimilait à l'artisanat des tailleurs de pierre. Mais Michel-Ange était intimement persuadé de sa vocation. Il était aussi un homme de lettres, poète, et adepte d'une doctrine de l'Antiquité qu'on appelle le néoplatonisme. Elle tire son nom du grand philosophe grec Platon, et elle conçoit le monde terrestre et le corps humain comme une prison, qu'il s'agit de quitter pour s'élever au-delà, dans le domaine de l'esprit, des idées, de l'imagination. Un prince de Florence, réputé pour son goût raffiné des arts, appelé Laurent de Médicis et surnommé le Magnifique, était aussi un néoplatonicien, et très tôt admirateur de Michel-Ange, il lui confia de grandes commandes. C'est une statue de ce prince que tu m'as emmené voir ? Non, ce n'est pas Laurent de Médicis qui se dresse devant toi. En fait, au début du XVIe siècle, face à la beauté et la puissance de la ville de Florence, une autre cité, qui était le berceau de l'Italie et de l'Europe chrétienne, devint jalouse de ses splendeurs et voulut rivaliser avec elle. Je la connais, cette cité. C'est Rome. Papa fait toujours la même blague. Au lieu de dire « tous les chemins mènent à Rome », il dit « tous les chemins mènent au Rome ». Et moi je ris, mais c'est surtout pour lui faire plaisir. Laisse ton papa ses bons mots pour le moment. Et sache qu'à Rome, il y avait alors un pape très riche et très admiratif du talent de Michel-Ange. Il s'appelait Jules II, et il dépensait énormément d'argent pour embellir la ville. « Ah oui !» l'interrompit Mona. « C'est celui qui a embauché Raphaël. » « Bravo pour ta mémoire !» Il embaucha donc aussi Michel-Ange, qui devint riche, mais mena pourtant une existence modeste, aux limites de l'indigence et radicalement solitaire. Il entassait, dit-on, les pièces d'or sous son lit sans les dépenser. Plus tard, Jules lui demanda d'imaginer son tombeau. Et c'est précisément pour cette commande que fut réalisée cette statue, ainsi qu'une seconde que tu vois à ses côtés. Il lui montra l'esclave rebelle, qui faisait pendant, dans la galerie du Louvre, à l'esclave mourant. Elles devaient, l'une et l'autre, orner la monumentale sépulture du pape. « Tu veux dire ?» « Là où Jules est enterré ? C'est triste d'imaginer sa propre mort. » « Justement, Mona. » Pour Jules, qui était pape et croyait à la vie éternelle, à la résurrection, un tel projet ne devait pas être quelque chose de désespéré, mais un mélange subtil et paradoxal de bonheur et de malheur, de gloire éternelle et de deuil infini. Et Michel-Ange comprenait intensément cela. Magnifique poète, il écrivit d'ailleurs un jour le vers suivant « Ma joie, c'est la mélancolie ». Ça devait être très dur de travailler avec Michel-Ange. Et c'est bien pour cette raison que même sur des tâches colossales, comme plus tard la fresque de la chapelle Sixtine, il était toujours seul, farouche en amitié et absolument incapable de partager ses faramineux chantiers avec des compagnons ou des assistants. Mais Michel-Ange s'entendait bien avec le pape Jules II, parce qu'ils avaient un caractère semblable, l'un et l'autre irascibles, dépourvus du moindre esprit de compromis, indifférents au regard des autres, pourvu qu'ils fussent à la hauteur de ce qu'ils s'étaient fixés à eux-mêmes. Personne n'eut dans l'histoire de l'humanité autant d'appétit furieux que Michel-Ange pour la beauté, mais pas une beauté douce, gracieuse comme celle de Raphaël. Ce devait être une beauté tourmentée et tendue par des énergies contraires. Et on parla à ce sujet de la terribilita de Michel-Ange. Mona agrippa le poignet de son grand-père, dont la voix devenait elle-même un peu terrible, tant elle semblait profonde. Le vieil homme décrivit alors avec sa main restée libre une sorte de vrille dans l'air, geste semblable à celui d'un danseur, et qui mima l'ondulation du corps sculpté, pareil à une flamme. « Ce corps, Mona !» est à la fois le corps bienheureux d'un garçon parfait, gracieux et musclé en plein épanouissement, traversé par une secousse de plaisir, et un corps tourmenté de souffrance. L'œuvre s'appelle « L'esclave mourant », et l'extraordinaire ambiguïté de son expression vise précisément à faire sentir une idée déconcertante, d'autant plus déconcertante qu'elle vient d'un artiste qui a sans cesse les mains occupées à tailler de la pierre ou à batailler avec ses pinceaux et ses couleurs. Cette idée est la suivante. Il faut s'affranchir de la matière, du monde concret et palpable. Ce corps, Mona, ce corps vibrant, passe des errements de la vie aux sphères idéales de l'au-delà, de même qu'il passe du statut d'esclave à celui d'homme libre, de même qu'il passe de la masse informe du marbre à la splendeur d'une sculpture. Et ces trois passages, qui sont tous des affranchissements à l'égard de la matière brute, lourde, aliénante du monde, ont lieu ensemble, dans un mouvement terrible et sublime de joie et de déchirement entrelacés. C'est une délivrance. Henri se tut et fit tourner plusieurs fois sa petite fille autour de la statue, jusqu'au moment où, attentive au flanc gauche, elle posa enfin la question qui l'attendait. Et pourquoi donc est-ce qu'il y a une tête de singe ?
Je suis heureux que tu t'en étonnes.
Sans doute parce que le singe est une parodie de l'homme et de l'artiste. De l'artiste qui imite tout ce qu'il voit, qui singe tout ce qu'il rencontre. Regarde, il est prisonnier ici d'un amas de matière confus, inachevé. Il symbolise ce niveau bassement matériel du monde au-delà duquel il convient de s'élever. Tu sais, Mona, Michel-Ange aimait à dire que la figure existait déjà dans son bloc de marbre et qu'il suffisait de la révéler, de la faire émerger de sa gangue. Dans la confusion de la matière se niche déjà l'esprit et l'idéal, l'œuvre dans sa pureté. Mona, à ces mots, quitta des yeux l'esclave mourant, s'éloigna en compagnie de son grand-père, mais juste avant de sortir de la galerie, s'arrêta net, se retourna vers la sculpture et ne put s'empêcher, pour la saluer, de mimer un chimpanzé. Fléchissant les genoux, elle poussa trois grognements et se gratta les aisselles.
Henri hésita à accompagner Mona dans cette imitation sauvage, mais se censura brutalement à la vue d'un gardien de salle qui rouspétait tel un ours mal léché.